Surtout que les neurosciences, les DIS, la recherche, que tout ça soit bouillonnant et nous apporte des choses sympathiques qui fassent bouger les lignes un petit peu. Donc je vais me présenter, je suis Nicole Bardou, la présidente de l'association AA10. Nous sommes basés en Charente. Nous sommes agréés par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine depuis peu. On a été fondé à peu près il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et nous avons commencé avec les dyslexiques, mais c'est pour ça que je suis si contente d'être là avec Eric Lambert. On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop restrictif et qu'il y avait des pluridys, des multidys, et que finalement, rester sur des séparations de troubles dys dans un domaine ou un autre n'était pas ni scientifiquement ni logiquement bénéfique parce qu'il fallait avoir plus d'ouverture d'esprit. C'est pour ça qu'on s'occupe de tous les dys. Alors, dyspraxique, dysgraphique, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on représente à la fois les familles et nous sommes aide au diagnostic. Et c'est vrai que je le redis, comme je l'ai dit, d'abord, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux. On est désolé pour ceux qui se sont fait refouler la dernière fois, mais faire deux sessions, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que ça intéresse beaucoup de gens. Et ensuite, on est obligé de constater, puisqu'il n'y a pas très longtemps qu'un grand neuropsychologue vient de rentrer au gouvernement, depuis le temps qu'on en parlait, ça fait plaisir aussi, que si les familles, les enfants ne se rapprochent pas de la recherche, on ne fera pas avancer les choses, parce qu'on reste sur des dogmes ou des habitudes ou sur la terre est plate, et c'est la science qui fait avancer les choses. Et il faut pour ça que la science soit soutenue par les gens concernés de façon à ce qu'il y ait un travail commun et de façon à ce que vous trouviez des petits qui testent, à vrai dire, les paramètres qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Donc je vais passer la parole à Eric Lambert qui va mener cette soirée. On reviendra, je reviendrai vers vous pour la discussion après. Et surtout, notre partenariat est vraiment l'exemple même de ce qu'il faut. Les associations de familles, d'enfants qui ont des troubles, avec la recherche pour que main dans la main, on avance et il n'y a que ça qui marchera. Voilà, bonne soirée à vous et je vous passe Eric Lambert.
Bon, je vais me lever. Bonjour, merci. Merci pour cette introduction, c'est très, très gentil. Merci pour cette seconde invitation. Merci à l'espace Mendès France de gérer tout ça. Et puis là, c'est nouveau pour moi, hein. Je ne suis jamais venu ici. Merci au musée Sainte-Croix, je suis très, très impressionné. Je fais une conférence dans un musée. C'est pas mon habitude quand même. Je suis Eric Lambert, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Plus particulièrement enseignant à l'ESP, qui avant s'appelait l'IUFM, qui a très très longtemps s'appelait l'école normale, c'est-à-dire l'école du professorat. Et en niveau de la recherche, je fais partie donc du laboratoire CERCA, Centre de recherche sur la cognition et les apprentissages. Donc je partage mon temps entre l'enseignement pour les enseignants spécialisés, et de la recherche sur différentes choses, et plus particulièrement sur l'apprentissage du langage écrit et sur les troubles dys. J'aborde cette conférence avec deux questions. Qui sont les élèves dys et le numérique peut-il les aider en classe? Donc, sans aucune surprise, je vais faire deux parties. Une première partie qui va plutôt répondre à la première question, qui sont les élèves dys, et puis une seconde qui va essayer de répondre à la seconde question. Alors, OK, pas de souci. Non, je vais me gérer. Alors, qui sont les élèves dys? Alors, pour essayer de répondre à cette première question, il y a plusieurs façons d'aborder le problème, la problématique. La première solution, qui est la plus classique et qui est la plus académique, c'est de l'approcher via des étiquettes. De travailler par les types de troubles dys, d'accord. Et donc, par habitude, je vais commencer comme ça, mais très vite, je vais changer la façon de parler des enfants 10. Mais malgré tout, je vais essayer d'apporter quelques éléments sur quelques étiquettes pour aller très vite. Et puis, je vais commencer par la plus connue, hein, le best-of au niveau de la recherche, au niveau de la... De l'antériorité, ça fait le premier trouble sur lequel il y a eu des travaux sérieux, c'est la dyslexie, et c'est celui où il y a le plus de recherches, où il y a le plus de moyens qui ont été développés, donc c'est sûrement le trouble qu'on connaît le mieux. Donc, si on, alors donc tout, enfin, ici tout le monde sait ce qu'est à peu près la dyslexie, donc c'est vraiment c'est un trouble de la lecture durable. Mais surtout, c'est un trouble de la reconnaissance et de l'encodage et du décodage, c'est-à-dire de la reconnaissance de mots, cette capacité à passer des lettres au son et des sons aux lettres. Cette transition dans un sens comme dans l'autre, c'est là où ça bloque, c'est là où il y a une résistance dans l'apprentissage. Et la façon de diagnostiquer au tout début ce trouble, c'était de se dire, OK, on repère des enfants qui résistent à l'apprentissage, mais il faut, pour être considéré comme enfant dyslexique, ne pas avoir d'autres difficultés. C'est donc une définition par exclusion, en gros. C'est-à-dire qu'il faut, il fallait pas avoir, alors je ne vais pas peut-être toutes les mettre, mais il ne fallait pas avoir de déficience intellectuelle. D'accord ? Si on était déficient intellectuel, on ne pouvait pas être dyslexique. Ça, ce n'est pas possible. Cette chose-là est en train de changer, d'accord ? Parce que c'est très cynique ce que je vais dire, mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'être dyslexique si on est déficient intellectuel ? Il n'y avait pas de raison. Mais d'un point de vue diagnostique, c'était impossible de dire « Ah, bah, les difficultés viennent de là ou de là ». Donc il ne fallait pas avoir de déficience intellectuelle. Il ne fallait surtout pas, et ça de fait, pas avoir de déficit sensoriel, auditif ou visuel. Beaucoup d'enfants ont été soignés, entre guillemets, de leur dyslexie avec une paire de lunettes ou alors avec un appareil auditif. Donc, il suffisait de c'était pas de la dyslexie, donc c'est ce que je veux dire. Donc, il fallait bien sûr avoir l'occasion d'avoir appris pour savoir, quoi. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais l'idée, c'est que pour être en France considéré comme dyslexique, il faut avoir 18 mois de retard, au moins 18 mois de retard dans l'apprentissage, d'accord ? Donc, il suffit que j'ai loupé 18 mois d'école, bah, ça y est, je ne le suis pas, d'accord, mais je pourrais avoir un profil proche. Et puis, bon, entre autres, il ne faut pas avoir de lésions neurologiques. Ça, heureusement qu'on ne fait pas passer un IRM à chaque enfant qui a une difficulté. La difficulté finale, et qui est vraiment une difficulté de diagnostic quand on fait un bilan, c'est d'arriver à se dire qu'est-ce qui est de la difficulté normale, du retard normal, par rapport au normal, au retard pathologique. Ça, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire, surtout si on est au début de l'apprentissage. Vous imaginez, je vous ai dit, il faut 18 mois de retard. Donc, si on est au bout de 18 mois d'apprentissage, de toute façon, on ne sait pas faire. Donc, généralement, on attend le début du CE2. Vous voyez, 2 ans, CP, CE1, on attend. Et en CE2, là, on commence à avoir un recul. Mais c'est quand même pas... Plus on attend, plus le diagnostic va être certain. Le problème, je reviendrai là-dessus, c'est que plus on attend, plus la prise en charge va être moins efficace. Enfin, plus, moins, c'est compliqué ce que ma phrase, mais plus on attend, moins la prise en charge sera efficace. Donc il faut une prise en charge plutôt précoce, mais on va avoir des difficultés si je dois attendre d'avoir tous les critères d'exclusion, que les critères d'exclusion soient invalidés. Donc une autre façon, c'est d'avoir une position plus, non pas en négatif, mais en positif, et de considérer que tout ce qui est de l'ordre de la dyslexie, dans l'ultra grande majorité des cas, est d'origine phonologique, et donc on va repérer. Là, non plus, on ne va pas se dire « Ah, bah, il ne faut pas qu'il y ait de déficience, il ne faut pas qu'il y ait de troubles, il faut qu'il y ait quelque chose. » Et une signature, c'est des difficultés dans le traitement de la phonologie. C'est une signature qui aide au diagnostic. Et vous voyez, oui, c'est énorme ce que j'ai derrière moi, donc vous voyez. Quand je dis le traitement de la phonologie... par exemple, on va avoir pour les plus petits des tâches qu'on va appeler classiques, hein, tous les enseignants connaissent ça, de conscience phonologique, hein, chapeau, filou, râteau, dis-moi ce qui finit pas comme les deux autres, trouver l'intrus, Et puis pour des un peu plus grands, dire bah voilà, Cannes, t'enlèves le premier son, qu'est-ce qui reste ? Vous voyez ? On doit jouer consciemment avec les sons. Donc Cannes, moins le premier son. Et si, alors si pour vous ça semble facile, faites ça avec un gamin sans difficulté, faites ça en CP, faites ça en fin de grande section de maternelle. Vous allez voir le cerveau travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de l'IRM, on voit. Ah oui, Anne. Et donc, ça, c'est une première chose. Et vous voyez que ça, on n'est pas obligé d'attendre CE2 pour faire ces tests-là. On peut les faire beaucoup plus précocement. Ça, c'est une qualité. L'autre chose, c'est qu'on va avoir une difficulté dans le maintien de la mémoire à court terme verbale, donc dans la mémoire de travail verbale. C'est des tâches classiques. On pourrait faire ça ici. On pourrait mesurer à chacun d'entre nous notre rampant de mémoire verbale. Je vous dis une séquence de chiffres et vous devez la répéter à l'envers. D'accord. Et donc, on commence par des petites séquences de chiffres, de 3, 5, 8, 1. Vous voyez, donc il faut hop, et répéter à l'envers. Et puis, on continue à 3, puis on va passer à 4, puis à 5, puis à 6. Puis ça va casser un moment, hein, on va pas réussir. Et donc, on a tous un empan comme ça. Et cet empan-là, bah, il est plus faible chez les enfants dyslexiques. Et puis, une dernière signature, je dirais, c'est la difficulté de récupérer cette information verbale phonologique dans la mémoire à long terme. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dénomination rapide. C'est un test encore très classique. On se met d'accord d'abord avec l'enfant sur les étiquettes, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, tu vois, c'est un verre, lit, cœur, chien. Tu vois, tu es d'accord ? Allez, maintenant, tu me lis ça le plus vite possible. Enfin, lire. Tu me dis les étiquettes le plus vite possible. Donc, il faut tac, 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 tac. Et là, on a des normes. Enfin, ouais, et on voit que quand on a des troubles dyslexiques, on a très, très fréquemment, pas systématiquement, mais très, très fréquemment, des difficultés dans cette tâche-là. Donc, vous voyez, les trois, traitement conscient, maintien en mémoire à court terme, etc., sont des informations qui nous permettent d'avoir une définition beaucoup plus positive qu'une définition où je dis ah ben, il ne faut pas qu'il y ait ça, il ne faut pas qu'il y ait ça, il ne faut pas qu'il y ait ça. Et qui permet d'avoir au moins un repérage, voilà, un repérage plus précoce. Alors, quand je dis repérage précoce, d'ailleurs, c'est intéressant. Et c'est une question, si ça vous intéresse, il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus. Mais quand j'ai commencé à enseigner, il y avait vraiment cette idée de débat entre « Ah oui, mais la dyslexie, c'est simplement une mauvaise façon d'apprendre à lire. Si on apprenait bien aux élèves à lire, ils ne seraient pas dyslexiques. » Je ne suis pas en train de dire que la méthode de lecture joue pas, elle joue de manière très importante. Mais ce qu'on appelle dyslexie, ce n'est pas dû à une mauvaise méthode de lecture. Et une des preuves de cette chose-là, c'est une étude que j'aime bien montrer. C'est une étude suédoise qui a duré 10 ans, qui est partie avec des mères enceintes, des femmes enceintes et des futures mères. Et ces femmes enceintes étaient catégorisées dans deux catégories, des familles à risque ou des familles contrôle. Familles à risque, il fallait que la mère soit dyslexique ou alors son frère ou alors ses parents. D'accord. Et donc, on la mettait dans famille à risque. Et puis, famille contrôle, c'était la même, par exemple, même âge, si c'était son deuxième enfant. Enfin, vous voyez, on essayait de faire toutes choses étant égales par ailleurs, mais aucune histoire dans sa famille de dyslexie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à l'âge de 6 mois, il y a eu plein d'études, ça a duré 10 ans. Ils ont suivi les bébés de la naissance jusqu'à leur 10e anniversaire. D'accord. Et donc, à l'âge... Donc, il y a eu plein d'études, et je vais juste en prendre un exemple. À 6 mois, ils ont pris les bébés, donc de la cohorte à risque et de la cohorte contrôle, et ils leur ont fait un test très simple. Alors, le problème des bébés, c'est que ça ne parle pas beaucoup, donc c'était un peu compliqué. Et donc, on passe avec un casque d'électroencéphalographie. Et l'idée, c'est de faire la tâche suivante, c'est une tâche d'habituation. Le bébé va entendre « bas, bas ». Bas, pas. Et quand on est au pas, il y a une onde. il y a une émission cérébrale. Il y a une onde cérébrale qu'on peut enregistrer avec le casque, et elle signe cette capacité de discriminer bas, pas. D'accord. C'est d'ailleurs très intéressant parce que dès 6 mois, on discrimine. Et même à 6 mois, on discrimine des phonèmes pas de notre langue. Que après, on va être sourd à ces phonèmes-là. Mais il y a cette possibilité-là. Eh bien, ce qui montre, c'est que dès 6 mois, la cohorte bébés à risque n'avaient pas la même signature, avaient une réponse plus faible à cette discrimination que la cohorte contrôle. Et bien entendu, ils ont continué à suivre ces cohortes-là, et quand les enfants ont eu l'âge de 8-9 ans, ils ont bien validé que la population à risque était beaucoup plus dyslexique, parce que ce n'est pas une preuve de dyslexie, ce que je suis en train de vous dire. Mais si on remonte dans le temps, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'était un pari, finalement, sur l'avenir, cette étude-là. Arrivé à 8 ans, ils ont dit, ah bah oui, donc c'est bon, on a bien notre cohorte dyslexique. Pas tous, hein. C'est pas parce qu'on a une mère dyslexique qu'on sera dyslexique, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a plus de risques. Et donc, ils sont remontés, effectivement, les enfants à 8-9 ans qui étaient dyslexiques avaient une signature particulière de la discrimination phonologique pour la majorité d'entre eux. Donc ce qui montre bien, c'est que finalement, alors 6 mois, pourquoi 6 mois? Parce que c'est, vous imaginez, vous êtes mère et on vous dit, on va mettre un casque comme ça avec des petits points de gel et tout sur la tête. Donc il y a des résistances, ce que je comprends bien, des résistances maternelles normales et paternelles, c'est pas le. Mais donc à 6 mois, bon voilà, c'est accepté, il y a eu l'idée. Mais depuis, ça a été répliqué cette étude-là à 3 mois. Donc il fallait être encore plus convaincant et ça a été répliqué. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la signature de la dyslexie, ce n'est pas une cause qui va apparaître avec l'apprentissage de lecture. Elle est beaucoup plus précoce et elle est déjà dans la personne bien avant l'apprentissage de lecture. C'est pas... Alors tout ce que je vous dis là nous interroge, nous pose plein de questions. Et jusqu'à maintenant, on faisait, il y avait des groupes de recherche nationaux, internationaux sur ces questions-là, voir le poids, le rôle, quand, comment, etc. Et puis, en début d'année, je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent ça, on a eu, je pense, la solution. On n'avait plus de problème, tout était réglé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet article dans Ouest France, mais qui a eu un article dans Le Monde, qui a eu Le Parisien, qui a eu une couverture médiatique nationale et un peu internationale assez importante. C'était deux chercheurs, alors deux physiciens. De physiciens qui s'interrogent à la dyslexie, pourquoi pas ? Je vais pas de, mais bon, c'est un peu, c'est pas leur spécialité à la base. Et ces deux physiciens rennais, d'où Ouest France, ces deux physiciens rennais entre ce qu'ils ont fait et la couverture médiatique, il y a toujours un petit pas. Hein, mais en gros, c'est ça y est, ils ont trouvé l'origine de la dyslexie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a tous une zone qui, au fond de notre rétine, qui s'appelle la zone de Maxwell, d'accord ? Et on en a une sur chaque œil, normal. Et votre œil directeur a pas, il y a une dissymétrie entre votre œil directeur et votre œil, pas directeur. C'est pas la même zone. Enfin, ils ont montré ça. Bon, ça, c'était le point de départ. Puis ils ont pris 30 étudiants de l'Université de Rennes dyslexiques et ils ont montré que cette dyssymétrie de la zone de Maxwell était moins dyssymétrique. Il y avait plus d'égalité, de symétrie entre les deux zones chez les dyslexiques que chez les pas dyslexiques. D'accord ? Et donc, ils ont dit, ça y est, la dyslexie, on sait ce que c'est. Et même, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est. Alors, vous voyez, pour vous donner un exemple, on monte le B, vous voyez, parce que souvent, il y a un peu l'idée, il va y avoir une confusion de lettres, d'accord ? Donc, comme ils ont un problème de zone de Maxwell, ils vont avoir une confusion de lettres. Et donc, B, D, si j'inverse, vous voyez, c'est là où est le problème. Et puis, ils vont même jusqu'à... Alors, j'ai regardé, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti depuis les quelques mois qui ont passé. Ils ont dit, on va même mettre en place une lampe LED qui devrait soigner, c'est le terme qui a été dit, soigner la dyslexie. Alors, quand nous avons entendu ça, nous, collectivement, ceux qui s'intéressent à cette question-là, étions un peu sceptiques. Et puis, on a regardé l'article très précisément, puis plein de personnes ont regardé l'article très précisément. Et puis, on a quand même, alors ce n'est pas inintéressant, mais on a des petits doutes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais aller vite, mais les participants, ils sont dyslexiques. Comment ils ont été sélectionnés ? C'est des étudiants qui ont un tiers-temps supplémentaire à l'université. Alors, je suis à l'université, je connais des étudiants qui ont des tiers-temps supplémentaires à l'université. Il n'y a pas une rigueur énorme dans la, dans la sélection, vous voyez, du trouble. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quand même... j'ai rien contre la santé à l'université, c'est pas un problème, mais c'est pas les grands spécialistes quand même de la reconnaissance des troubles 10. Donc, on a un petit peu de doute. Et puis, alors bon, il y a plusieurs... Donc, on ne sait pas trop comment les étudiants ont été sélectionnés. Ce résultat n'est pas répliqué. Il n'y a que 30 participants. Et puis, pour vous donner... Je reviens sur cet exemple. Hein. Donc, en gros, bah oui, la lecture... le problème de la dyslexie, c'est qu'un problème presque visuel. Et ça, on sait, ça fait quand même 20 ans qu'on montre que ce n'est pas le cas. Et puis surtout, cette histoire BD, là. OK, mais alors que quid des Chinois avec leur écriture idéogramme, avec les idéogrammes, quoi. Il y a des dyslexiques chinois, ce que je suis en train de vous dire. Et donc, il ne devrait pas y en avoir, puisqu'il n'y a pas ces problèmes de symétrie. Enfin, il y a plein de bonnes raisons pour ça. Il y a eu un énorme article qui a vraiment mis à terre un petit peu ça. Bon, je l'ai lu, voilà. Mais il y a des critiques. Et donc, finalement, la question... Enfin, nos amis belges du quotidien Le Soir ont attendu 48 heures et puis ont dit, mais non, on n'a pas trouvé la solution magique encore. Donc, il y a bien cette idée que ce n'est pas inintéressant. On a bien peut-être quelque chose à aller creuser un petit peu. Mais on est très loin de pouvoir mettre une lampe devant les yeux des 10 et dire « ça y est, t'es soigné ». Ça, je ne pense pas qu'on y soit encore là. Malheureusement, hein, soyons clairs, hein, si c'était fait, on a plein de choses à faire. Donc, si je reprends, la première catégorisation, c'est la dyslexie. Le deuxième trouble sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la dyspraxie. Alors, pourquoi je veux m'arrêter sur la dyspraxie ? Parce que c'est beaucoup, alors qu'on peut appeler aussi trouble développemental de la coordination, mais ce trouble-là est un trouble beaucoup moins connu, dont enseignants, monde médical, monde spécialisé, est beaucoup moins à même de le traiter, de le reconnaître, et dont les prises en charge sont beaucoup plus floues. Il y a moins de protocoles vraiment établis, et puis la recherche est beaucoup plus récente, il y a beaucoup plus de questions. Alors, qu'est-ce que la dyspraxie ? La dyspraxie, c'est vraiment un trouble de la planification spatiale. Alors, c'est écrit, hein, donc je vais lire. Hein, c'est un trouble de la planification spatiale et temporelle des gestes finalisés. Donc, en gros, c'est la difficulté d'apprendre des gestes nouveaux. Le cœur du problème à l'origine, il est considéré comme celui-ci, c'est celui de difficulté d'apprendre des gestes nouveaux. Donc, par exemple, pour premier test avec des enfants dyspraxiques, on leur demande de répéter des gestes qui n'existent pas dans le quotidien, si vous voulez, pour pas que ce soit qu'il n'y ait pas d'apprentissage. Donc, on fait des... gestes qui sont pas du quotidien et on voit leur capacité à répéter ces gestes-là. Alors, il y a une résistance, comme c'est un trouble 10, donc il y a une résistance dans l'apprentissage. Et l'idée, là, c'est de se dire, ah bah oui, mais si c'est moins répandu, moins connu, il y a bien une bonne raison. La première bonne raison, c'est peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup d'enfants dyspraxiques, donc c'est normal, si vous voulez, c'est un peu une... Alors, ça c'est faux. Ça, c'est faux, il y a... On considère maintenant même que c'est le trouble 10 le plus répandu. Donc, on ne peut pas dire c'est méconnu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, en l'occurrence, c'est vraiment la population. Enfin, il y en a au moins autant que les dyslexiques, et j'expliquerai pourquoi. Il y en a même, enfin, la proportion est sûrement plus importante même. Donc, la deuxième raison, c'est de dire bah oui, mais si je reprends mon petit graphe derrière, bon, d'accord, il va y avoir des difficultés d'habillement. La plainte des parents, la première, c'est l'habillement. Alors, des difficultés d'habillement, ou alors peut-être des difficultés dans la pratique sportive. Mais comme on est tous comme il y a une sorte de hiérarchie dans les... Celui est mauvais en sport, mais c'est pas grave, il sera bon à l'école. Enfin, j'évite, vous voyez, si je caricature, donc c'est pas très grave. Là encore, c'est faux. Là encore, penser que la dyspraxie n'aurait que des conséquences, on va dire, et c'est entre guillemets, parce que vraiment, j'y crois pas à ça, mais annexe, c'est complètement faux. Une première conséquence qui est évidente, j'espère, pour tout le monde, c'est qu'on est dyspraxique, c'est l'apprentissage de l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui va être... Enfin, ça dépend, mais qui va être vrai... Non, pas ça dépend. Ça va toujours être très difficile. Et l'écriture manuscrite, vous voyez, cet apprentissage du geste d'écriture, ça va être quelque chose qui va être douloureux. Douloureux pour les enfants. Et donc, on va avoir des enfants qui sont entre... écriture très très moche à écriture illisible, quoi. Donc on va avoir vraiment des productions qui sont très très vilaines et que souvent qui entraînent que même le scripteur, l'enfant même, n'arrive pas à se relire lui-même. Donc on a vraiment une première chose qui est comme ça, qui est sur la qualité de sa production, et puis peut-être même de manière encore plus importante, parce que ça, on peut travailler, on peut en partie résoudre ça, ce qui va être une difficulté scolaire majeure, c'est même quand, si j'ai résolu le fait, ça y est, je suis lisible, c'est que je vais rester lent. Et que je vais être très... Alors, je ne vais pas rentrer, mais là, voyons, nous, dans notre laboratoire, on a des outils pour enregistrer l'écriture en temps réel. C'est-à-dire, on a une tablette, on peut enregistrer, comme un magnétoscope, on peut revoir l'écriture en train de se faire, analyser plein de choses. Et si on utilise l'écriture des dyspraxiques, à chaque fois, il faudrait que je dise des personnes dyspraxiques, on va avoir quelque chose de plus lent, souvent avec plus de pression sur le stylo, c'est-à-dire une fatigue donc musculaire qui va entraîner... Et puis surtout beaucoup plus saccadé, haché. Vous voyez, ce qu'il y a à droite, là, c'est les pics d'accélération. Et donc, on a vraiment une écriture qui va être comme ça, quoi. Et ça signe vraiment le fait qu'on n'a pas fluidifié le geste, on n'a pas automatisé le geste. Et donc, pendant l'écriture, je suis dyspraxique, mon attention est portée sur le geste. Et pendant que mon attention, si je me concentre sur comment faire mon L, comment faire mon D, mon P, etc., je me fais des fautes d'orthographe. Pas parce que je suis mauvais en orthographe, mais parce que je dois penser à autre chose. J'arrive pas à faire une bonne rédaction parce que je perds le fil de mes idées. Vous voyez, toute mon attention va être concentrée sur ma difficulté au détriment d'autres choses sur lesquelles j'ai pas de raison d'être mauvais, quoi. Donc, on a bien ici une difficulté majeure scolaire qui va être au début de l'apprentissage. Là encore, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est l'histoire de CPCE1. Non. Ça, ce n'est pas du tout l'histoire de CPCE1. C'est l'histoire du début de l'apprentissage jusqu'à tout au long de la vie. Et par exemple, les étudiants à l'université dyspraxique ont des difficultés pour la prise de notes. Ça, ils vont avoir des difficultés pour... Alors, une solution, ça va être le dictaphone, mais ça veut dire que je fais deux fois le cours. Une fois, je l'enregistre et une fois, je le réécoute. Ça va, quoi. Il faut que... Donc, Non mais voilà, on ne peut pas faire toujours tout comme ça. Donc cette difficulté de l'écriture, elle va se maintenir. Et bien sûr, alors j'ai fait un saut entre le CP et l'université, mais les années de collège sont des années dures à vivre sur ces questions-là. Dures à vivre parce que la pression, là, il y a un saut entre CM2 et 6e, et ce saut-là, ces élèves-là ont du mal souvent à le faire. Donc, des problèmes sur l'écriture. Mais là, on pourrait se dire, mais peut-être que l'écriture, c'est pas très très important, c'est pas très très grave. Bon, bien sûr, ça va les... Ils vont être dégoûtés de ça, mais c'est pas très grave. Mais les conséquences ne sont pas que sur l'écriture. Les conséquences sont aussi sur les mathématiques. Ça, c'est un peu plus... Le lien est moins direct dans ce que je suis en train de... Vous comprenez, l'évident, le geste, écriture, ok, c'est direct. Là, ça l'est un peu moins. Ça l'est un peu moins, et au début, on a même eu des difficultés à comprendre pourquoi il y avait ce lien entre dyspraxie et mathématiques. Alors, il y a des difficultés dans l'acquisition du nombre chez les plus petits. Et pourtant, il n'y a pas de difficulté cognitive, je dirais, de retard intellectuel. Et pourtant, il y a un problème sur le nombre. Pourquoi il y a un problème sur le nombre? Une des explications, peut-être qu'il faudrait en trouver d'autres, mais une des explications, c'est le fait que quand j'apprends, quand je suis en maternelle, le nombre... Je dois apprendre une chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas de problème, ça pour personne. Mais je dois apprendre des notions telles que je dois compter les billes, je dois compter mes cartes Pokémon, je dois compter mes petites voitures, je dois compter tout ce que font les gamins en maternelle dans la cour de récré. Et bien que je pars de la verte pour arriver à la rouge, que je pars de la jaune, ça, je vais arriver à un nombre qui est constant. Vous voyez ce que je veux dire? On peut prendre n'importe quel chemin, je vais arriver à un nombre qui est constant. Sauf que si je suis dyspraxique, je vais avoir un problème dans la gestion de l'espace. Et donc, je vais passer deux fois. Alors là, il faudrait que je sois là-bas. Normalement, pour vous montrer, il faudrait que je sois là-bas. Mais vous voyez, je vais passer deux fois sur le jaune. Donc, je vais en avoir un en plus. Ou alors, je vais oublier. Je vais en avoir un en moins. Ce qui fait qu'un classique, quand vous êtes avec un enfant dyspraxique, on lui dit, on lui met les choses un peu en vrac. On dit, vas-y, compte. Il compte. On lui dit, est-ce que tu es sûr? Quand vous posez une question à un gamin de 4 ans, vous dites, est-ce que tu es sûr que c'est un adulte? Il va dire, non, j'ai dû me tromper, parce qu'il me demande, est-ce que je suis sûr? Donc, il recommence, il recompte. Il ne retombe pas le même nombre. Un gamin ordinaire typique, tout venant, il va tomber. Normalement, il retombe sur le même nombre. Il dit, c'est bon, je suis sûr. Maintenant, ça fait deux fois que tu me le demandes. On arrête, quoi. Donc, cette expérience du nombre à travers le comptage, cette expérience du nombre est moins bien faite avec les enfants dyspraxiques, ce qui fait qu'ils vont avoir un retard, pour certains d'entre eux, ceux qui ont les troubles un peu sévères, dans cette première acquisition du nombre. Puis après, l'horreur absolue quand on arrive sur les opérations qui font poser les unités, les dizaines, etc., en colonne, bien ranger les trucs et tout ça, et quand on arrive dans les multiplications qu'il faut décaler d'un cran et tout ça, là, cette gestion, une nouvelle fois, de l'espace fait qu'ils ont... C'est pas facile tous les jours, quoi. Et donc, on va avoir encore des difficultés dans les opérations. Et puis, j'ai pas besoin de faire de diapo, parce que j'en ai pas, mais vous imaginez la géométrie. Enfin, je suis juste vous imaginez, quoi. Vous imaginez l'équerre, d'accord ? Vous imaginez la règle, vous imaginez les outils, c'est tout. Le compas. Le problème, c'est le compas. Alors, le compas, on trouve des solutions, on le plante dans la table, enfin, on essaie de trouver des trucs ensemble, hein, pour gérer le compas. Mais le compas, c'est compliqué, quoi. Mais, et puis après, voilà, enfin, il y a vraiment... Et puis, la conception de la géométrie. C'est-à-dire, quand je suis en dehors des outils, intellectuellement, tout ce qui va être la géométrie, c'est quelque chose qui est plus compliqué à appréhender. Donc, on a bien des difficultés en écriture, des difficultés en mathématiques, vous voyez. Et donc, on a, si je veux conclure, parce que je veux pas non plus passer trop longtemps là-dessus, on a bien un trouble qui est méconnu, et pourtant, il y a beaucoup d'élèves ou d'enfants qui sont concernés, et pourtant, les conséquences scolaires sont importantes. Donc, il y a une sorte, là, un peu, pas d'énigme, mon propos n'est pas là, mais de difficulté à comprendre pourquoi, finalement, on néglige un petit peu. Alors, de moins en moins, je le pense, de moins en moins, et la preuve que le fait qu'on fait des projets de recherche qui peuvent être subventionnés sur ces questions-là fait qu'il y a une attention, mais malgré tout, il y a une négligence pendant un certain nombre d'années sur ces troubles 10, malgré leur impact scolaire. Et alors, quand j'ai commencé les recherches sur les 10, j'allais chercher alors, ce qu'on appelait avant, il n'y a pas très longtemps encore, les CLIS, mais donc les classes d'intégration scolaire et les CLIS d'enfants déficients intellectuels. C'est-à-dire que vous prenez un gamin, il est maladroit, il n'est pas bon en français, il n'est pas bon en maths. Enfin, vous voyez, la confusion peut être des fois un peu rapide. Et puis, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la mesure de QI, il va chuter à certains items qui fait qu'on peut confondre les choses. Donc, maintenant, je pense que cette confusion n'existe plus, mais elle a existé. Donc, on avait des enfants qui étaient envoyés comme dans une déficience intellectuelle alors qu'ils étaient dyspraxiques. Alors, les deux plus fréquents, à ma connaissance, c'est dyslexie, dyspraxie. Il y en a d'autres, hein, dyscalculie, dysphasie, trouble de l'attention, trouble exécutif. On a ici toute une collection. Vous voyez, quand je parle dans mes étiquettes, on a toute une collection d'étiquettes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails si ça vous intéresse. En plus, je ne suis pas spécialiste des autres. Donc voilà, ça limite la question, mes réponses surtout. Mais on a toute une collection de troubles qui sont très étiquetés. Troubles des mathématiques, troubles du langage oral, troubles des fonctions exécutives. Donc on a ça. Personnellement, je pense que cet étiquetage, voire ce surétiquetage, parce que quand je parle de dyslexie, et on va dire qu'il y a différents types de dyslexie, différents types de dyspraxie. Donc on va encore affiner. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure façon d'aborder les choses, cet étiquetage, voire ce surétiquetage. Je pense vraiment qu'une notion qui est centrale à appréhender, à la fois pour la prise en charge, mais aussi dans le cadre de la recherche et dans le cadre de l'accompagnement au quotidien, scolaire ou extrascolaire, c'est beaucoup plus la notion de sévérité du trouble. C'est-à-dire que, très honnêtement, il y a des troubles 10, si on ne le sait pas, les conséquences sont... Parce que c'est très, très léger. Et tant mieux, hein, je suis pas en train de... Mais c'est... OK, oui, j'ai une petite difficulté qui a été repérée, etc. Mais c'est quand même très, très léger. Okay. Et puis, il y a des troubles. Et là, je ne suis pas en train de dire tel ou tel trouble. Chacun des troubles dont je parle vont avoir des degrés de sévérité très différents. Et le quotidien, les conséquences sur le quotidien, c'est beaucoup moins l'étiquette que la sévérité de l'atteinte. C'est vraiment le fait de se dire... cette proposition n'existe plus, et je dirais presque tant mieux, mais à un moment, il y avait l'idée, est-ce qu'on doit ouvrir des classes spécialisées pour les enfants 10 ? Et il y avait eu un rapport ministériel qui avait été fait, et l'idée, c'est de dire oui pour les 1% les plus sévères. C'est-à-dire que ce n'était pas pour oui pour tel type de 10, mais oui pour ceux qui ont vraiment, dans le quotidien de la classe, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et donc, oui pour cette catégorie-là. Ce type d'élèves-là. C'est-à-dire ceux qui ont les troubles vraiment sévères. Okay, le fait d'avoir une prise en charge orthophonique ou ergothérapique, le fait d'avoir, une adaptation, une AVS pour la classe, etc., c'est beaucoup moins l'étiquette qui est importante. Ce qui est important, c'est la sévérité. Est-ce que j'ai une atteinte sévère ou pas? Et donc, le côté un peu binaire, oui, je suis, oui, je ne suis pas, oui, mon enfant est, oui, mon enfant n'est pas, à mon avis, ne suffit largement pas et souvent masque une réalité. Enfin, ne donne pas, moi, si j'ai ça, je ne sais pas quoi faire. Alors, oui, mon enfant est dyspraxique. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que cette dyspraxie le gêne pour faire du vélo? Est-ce que cette dyspraxie le gêne pour des activités basiques ou est-ce que ça le gêne uniquement pour jouer du violon? Vous voyez, c'est pas une critique du violon, mais c'est pas pareil, quoi, quand même, dans la cour de récré, de pas savoir faire du vélo ou pas savoir faire du violon. Il faut quand même gérer, à mon sens, la sévérité en termes de conséquences, quoi. En termes de conséquences. Et puis surtout, cet étiquetage masque une réalité qui a été évoquée par Madame Bardou. C'est ce qu'on va appeler la comorbidité. C'est-à-dire cet étiquetage. C'est-à-dire si moi je m'arrêtais avant là, ce serait trop facile ma vie, enfin ma vie de chercheur, j'entends. C'est-à-dire je dis, je vais besoin des dyspraxiques. Hop, toi t'es dyspraxique, toi t'es dyspraxique, toi t'es dyslexique. Ben non, je te prends pas, d'accord. Et puis je fais ma recherche là-dessus, je regarde qu'est-ce qui marche bien avec eux, qu'est-ce qui peut les aider ou pas, etc. Non. Sauf que, et si je vais prendre uniquement ce qui est comorbidité, c'est donc quand les deux troubles sont présents chez le même individu, d'accord. Eh bien la comorbidité entre dyslexie et dyspraxie est très, très importante. Combien, on ne sait pas trop. Ça, c'est un premier problème. Super, on a plein de travail à faire. On va pouvoir faire plein de recherches. Mais on a une comorbidité. Vous voyez, 20 et 60, ça ne veut rien dire quand je mets une telle fourchette. On est peut-être autour d'au moins 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est 50, je peux le prendre dans un sens ou dans l'autre, mais au moins 50% des enfants dyslexiques ont des troubles dyspraxiques, ou à l'inverse, au moins 50%. Alors ça a été plutôt, c'est ce sens-là qui a été surtout étudié. Beaucoup moins dans l'autre sens, ça, il faudra le faire, mais on peut faire l'hypothèse, je ne fais qu'une hypothèse, qu'au moins 50% des élèves dyspraxiques ont des troubles dyslexiques. Et donc, le problème, si vous voulez, quand moi je regarde une recherche, enfin quand je lis un papier, on me dit il est dyslexique parce qu'il a des troubles phono, etc. Je dis ok, super, mais on ne va pas chercher est-ce qu'il a des troubles de la motricité. Vous comprenez, c'est pas mon métier là. Je suis en train de regarder est-ce que si je fais un entraînement phonologique, ça va aider mon gamin. Mais oui, mais est-ce qu'il a aussi un problème? Et finalement, si la catégorisation, vous voyez, la surcatégorisation fait que je masque finalement une réalité, c'est que si demain je devais aller travailler qu'avec des cas purs, je souffrirais quoi, pour les trouver. Il y a des enfants, je ne suis pas en train de dire que c'est tous, hein. Il y a des enfants qui sont que l'un ou que l'autre, c'est pas moi. Mais le quotidien, c'est quand même ce qu'on va appeler des troubles associés. Je n'ai pas ici parlé des troubles de l'attention, mais on a aussi une association forte avec les troubles de l'attention. Donc, et après, qu'est-ce qui est la poule de l'œuf? À un moment, on s'en fout, hein. Mais voyez, est-ce que c'est un tel trouble qui entraîne tel trouble, tel trouble, tel trouble? Donc on a une forte comorbidité. Oui, voilà, je voulais un exemple d'une étude. Hein. Elle est intéressante, cette étude, parce qu'il y a beaucoup de participants. 12 950 élèves, c'est une étude anglaise. Eh bien, 52% des élèves dyslexiques ont des performances faibles à des tâches motrices. Donc on a bien ce lien. Et je reviendrai sur ce lien parce que c'est notre énigme scientifique à nous et qu'on essaye de comprendre pourquoi on a cette comorbidité. Alors, Donc voilà, ce que j'ai essayé de répondre un peu voilà, dans cette première phase, c'est la question qui sont les élèves 10? Et donc, si je récapitule, c'est des élèves qui ont souvent plusieurs problèmes associés avec des degrés de sévérité plus ou moins importants. D'accord ? La deuxième question, ce que je voudrais aborder, c'est est-ce que le numérique peut être une solution ? Alors, quelle question ? C'est-à-dire que, finalement, je me suis dit, la proposition, c'était que je change mon titre, j'aurais dû. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait une fausse... C'est-à-dire que numérique, ça veut, je ne sais pas exactement ce que c'est tellement, vous voyez, immense comme domaine. Donc, je vais prendre des petits bouts du numérique. C'est justement, c'est pour ne pas essayer d'embrasser toute la généralité, la complexité de ce monde. Alors, j'ai essayé de séparer ce qu'on va appeler numérique en deux catégories. D'abord, les outils, deux, les applications. D'accord ? Les outils d'un côté, le hardware et le software. Alors, les outils, le best-of, c'est l'ordinateur. D'accord ? C'est l'ordinateur. En gros, l'idée, c'est de se dire, voyez ici, typiquement un ordinateur pour dyspraxique. Avec des gommettes pour les mains qui masquent les touches du clavier. Et puis, il y a un texte qui peut être surligné en couleur. Enfin, je reviendrai sur cette idée. Là, on est sur le software, comment la couleur peut être une aide. Donc, l'ordinateur a un vrai avantage. Et c'est souvent une proposition de la MDPH, de MDPH Maison des Personnes Handicapées, départementale. Excusez-moi, je reviens. La MDPH, souvent, essaye de gérer son argent, elle n'en a pas forcément beaucoup, pour voir quel élève on peut équiper d'un ordinateur. Okay. Et puis, l'ordinateur a des avantages. L'ordinateur a plusieurs avantages. Le premier, c'est celui de la motivation. C'est-à-dire que, j'ai un ordinateur, avec certaines limites. Les ados au collège, des fois, ils vivent plutôt ça comme de la stigmatisation. Et de se dire, je ne veux plus d'ordinateur, je veux être comme les autres, quoi. C'est pas toujours facile, faut pas toujours. Et puis l'intérêt important, je sors du software, hein, parce que c'est celui de pouvoir proposer des productions propres. Comprenez le fait d'avoir des, je tape un A, c'est un A qui sort, c'est pas un truc un peu vilain que j'arrive pas à reconnaître, quoi. Donc ça a un vrai avantage. Manifestement, je suis pas, pour ma part personnellement, un fanat dingue de l'ordinateur, parce qu'il a aussi des limites. La première limite de l'ordinateur pour moi, c'est le manque d'entraînement du geste d'écriture. Et on peut se dire, mais on s'en fout, puisque de toute façon, bientôt, plus aucun gamin va utiliser un crayon. Donc, quelle importance d'utiliser un crayon ? Passons au clavier, passons à quelle écriture clavier, quelle écriture dactylographique. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs États des USA, je ne sais pas si vous savez, mais qui ont fait cette bascule. Alors ça, c'est il y a quand même quelques années, parce que maintenant, certains reviennent en arrière et remettent à leur place l'écriture manuscrite, parce que l'écriture manuscrite n'est pas que le moyen d'écrire, c'est aussi le moyen d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est, que là, nous aussi, dans notre équipe, on travaille cette question-là. Je vous donne un exemple très simple. Si vous allez maintenant dans un amphi, plutôt de sciences humaines, 80% des étudiants ont un ordinateur et prennent leurs notes sur ordinateur. Et bien, il y a des études qui comparent prise de notes ordinateur, prise de notes papier-crayon. Eh bien, la mémorisation et la compréhension du cours, je vais vite, hein, mais est plus efficace lorsqu'on a pris les notes de manière manuscrite que lorsqu'on a pris les notes de manière tapuscrite. C'est-à-dire qu'on comprend plus en profondeur un cours, et ça, si j'ai du temps, je vous l'expliquerai, mais il me faudrait beaucoup de temps, mais plus en profondeur un cours si on l'écrit de manière manuscrite. Et voyez, le fait, c'est que là, je vais avoir un souci, c'est-à-dire que j'exclus mes dyspraxiques, si c'est qu'à l'ordinateur, de cette expérience, d'accord ? Un autre argument, j'en ai plusieurs, mais un autre argument, c'est que l'écriture manuscrite favorise l'apprentissage de la lecture. Et donc, tout de suite, ça me donne un lien. Ah, tiens, dyspraxie, dyslexie. Parce que quand, pour apprendre la combinatoire, hein, les associations phonèmes entre lettres et sons, et les combinaisons entre les syllabiques, entre telle syllabe et tel son, comment je traduis en telle syllabe, eh bien, la meilleure façon, et je reviens sur mes deux physiciens bretons, c'est peut-être pas de mettre une lumière bleue dans les yeux, mais c'est de faire écrire un D et un B. C'est à travers, et ça c'est montré depuis un certain temps, et répliqué, et sur plusieurs centaines de personnes, c'est bien montré qu'une voie royale pour enlever l'ambiguïté entre les lettres et les phonèmes proches, be-de, feve, mene, che-je, eh bien c'est d'écrire ces phonèmes, d'écrire ces lettres. Eh bien, ça, une nouvelle fois, le clavier ne remplace pas, ne peut pas remplacer, malheureusement, hein, ne peut pas remplacer cette expérience. Et puis, enfin, le dernier, peut-être, c'est que, le clavier, c'est bien, mais de plus en plus, on va vers des tablettes PC, etc., où on remet, j'ai vu une dernière fois, j'avais une collègue qui a une voiture de riche, où elle écrit sur son, pour demander sa route. Elle peut le dire à l'oral, mais elle peut aussi écrire. Elle a une petite tablette intégrée dans sa voiture. Et j'étais super épaté, quoi, comment elle fait ça. Et ce n'est plus un clavier, parce qu'on peut rouler et puis écrire de manière aveugle. Et ça, c'est, on n'a plus besoin de regarder le clavier. Et je trouve, voilà, on remet en place aussi l'écriture manuscrite. Et il ne faudrait pas exclure de la société des gens qui auraient des difficultés dans cette habileté. C'est pour ça qu'il y a un autre outil qui nous semble aussi très, très intéressant et très important, c'est la tablette tactile. Je ne dis pas qu'elle a tout, aucun outil a tous les avantages, aucun outil a tous les défauts. Mais la tablette tactile a quelques avantages. Le côté intuitif, alors je ne sais pas si vous avez des tablettes et des gamins en bas âge, mais y a, c'est eux qui vous expliquent, enfin... Moi, mon iPad, mon gamin m'a dit « Ah ben oui, mais tu peux faire comme ça. Enfin, » Et puis, avant, mais, enfin, ça va à une vitesse. Enfin, pourquoi ? L'intérêt de la tablette, c'est quand même, je mets mon doigt là, je fais ça, je vois. Vous comprenez ce que je veux dire ? Une souris ou un clavier, j'ai deux mondes, j'ai deux univers. J'ai l'univers où je dois bouger et l'univers qui, où, ça, où la conséquence est là. Là, sur une tablette, c'est tout de suite. Et les gamins, alors, je, vous verrez, je défendrai, mais bien sûr, on peut dire ah, « Il ne faut pas donner des tablettes, je sais, à tel des enfants. » Mais à deux ans, un gamin, il s'éclate sur une tablette. Hein. Après, vous faites en tant que parent, on fait ce qu'on veut, mais il s'éclate, ça, fondamentalement. Donc, c'est super intuitif, c'est léger. Le rêve de Steve Jobs, quand il a inventé l'iPad, c'était d'arrêter que ses collégiens aient un sac à dos avec je ne sais pas combien de kilos dans le dos et que ça soit remplacé par une tablette. C'était l'objectif, à la base, c'était celle-là. On l'a, et c'est vrai que c'est léger, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Alors, il y a plein d'applications, je vais venir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment maintenant un développement d'applis qui sont très intéressantes. Il y a bon, la possibilité de zoomer, c'est tout bête, mais quand on a un trouble 10, des fois simplement de faire ça et hop, d'agrandir, ça aide, tout de suite ça aide. Et puis, alors, il reste le problème du stylet, pour l'instant, c'est pas encore, ça devient de mieux en mieux, mais on a encore écrit avec un stylet sur une tablette, c'est encore un peu. Ce n'est pas une expérience encore très agréable. Donc, on a des outils et puis on a des applications. Alors, des applications, je veux vraiment commencer par dire il n'y a pas besoin d'aller chercher des applications spécifiques. Il y a plein d'applis pour tous, pour chacun d'entre nous, qui peuvent être un peu tordus, vous voyez, et qui peuvent être des outils d'aide. Des outils de, et puis, tous ces outils s'améliorent énormément en plus. Il y a des progrès technologiques, mais des outils qui lisent à notre place. Ça, c'est de plus en plus fort et puis de plus en plus gratuit. Tout ça est très important, mais on a vraiment, vous voyez ce que je vous propose, mais sur les ordinateurs, ça marche très bien, mais maintenant, on a même des petites choses comme ça, on scanne, c'est très léger et hop, ça lit ce que je suis en train de... Le stylo, il lit ce que je suis sur là où je suis en train de passer. Il y a quand même une évolution et puis, j'ai plus besoin de... On lit pour moi, alors. Ça ne permet pas d'apprendre à lire, mais ça permet de solutionner quand j'ai une difficulté particulière. Et puis, à l'inverse, il y a les logiciels qui écrivent pour moi. D'accord ? Les logiciels qui disent, moi je peux, les logiciels où je lui parle et puis il est en train de d'écrire pour moi. Là encore, ils ne sont pas encore complètement fiables, il y a encore des choses à régler, mais tout ça s'améliore à une vitesse incroyable. Et puis après, d'un point de vue pédagogique, il y a plein d'applications, mais c'est qu'un exemple, il y a plein d'applications disciplinaires. Des applications de géométrie, des applications de mathématiques, enfin d'algèbre, des applications de grammaire, des applications. Donc on a plein d'applis et souvent il n'y a pas besoin d'aller créer, alors je suis en train de dire le contraire de ce que je vais vous montrer après, mais on n'a pas besoin d'aller créer on peut déjà utiliser beaucoup de choses qui sont sur le marché pour les élèves tout venant. Puis après on a des applications vraiment spécifiques, des applications qui sont dédiées spécifiquement pour un public 10. Là, entre parenthèses, souvent, ces applications permettent de dire « Ah ouais, mais je pourrais aussi l'utiliser avec d'autres élèves, avec des élèves ordinaires. » Et ça marche aussi. Donc, la frontière est toujours un peu floue. Mais pour aider à mettre en colonne, ce que je vous dis, ça, c'est une difficulté. Bon, c'est très simple à programmer. On a l'idée pour... Là, c'est vraiment un logiciel d'aide à la lecture, c'est le fait qu'on a des applications qui vont nous permettre de segmenter syllabiquement un texte, de mettre des couleurs, de mettre en clair des lettres muettes, dire pour essayer vraiment d'aider dans cette lecture qui est délicate. On a vraiment des outils qui peuvent venir au secours des élèves et les aider. Et puis, on a c'est de plus en plus connu aussi, on a des fontes qui lèvent certaines ambiguïtés. Vous voyez, à gauche, vous avez À gauche, vous avez le texte classique et à droite, vous avez le texte passé avec la fonte Auxilidis. Donc, en gros, cette fonte, elle augmente les pattes en haut, les pattes en bas. Elle alourdit le bas, vous voyez, pour qu'il y ait moins d'ambiguïté. C'est-à-dire le bas de chacune des lettres est un peu plus gras. Ça enlève les ambiguïtés sur les lettres proches. Le défaut d'Auxilidis, c'est que c'est payant. Maintenant, il y a des fontes comme ça qui sont gratuites. Donc, là encore, c'est une très bonne idée, mais quand c'est payant, c'est toujours un peu gênant. Je préfère quand on peut récupérer ça gratuitement. La difficulté de toutes ces applis, le problème de toutes ces applications dont je vous parle jusqu'à maintenant, c'est est-ce qu'elles sont efficaces ? Parce que demain, vous avez votre tablette. Demain, ou votre ordinateur, vous allez sur l'Apple Store, le Google Play, vous allez sur vous voulez, vous tapez dyslexie. Vous allez avoir toute une. À ma connaissance, en langue française, il y en a peut-être une, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait en direct, aucune n'a été testée. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est le développeur qui a dit ouais, c'est bien pour les 10, mais est-ce que c'est utile ? Est-ce que l'utiliser, ça va aider le gamin ? On n'a pas le temps, nous on développe, on ne teste pas. Eh ouais, mais c'est ça le problème quand même. On a un petit souci là sur la validité de ces outils-là, et ça, c'est un gros point d'interrogation. Et donc, je vais passer sur un autre type d'outil qui est notre marotte ces temps-ci, le jeu vidéo. Alors, je passe sur des choses qui sont beaucoup plus, a priori, éloignées. C'est-à-dire, je suis passé de choses qui sont très ciblées à des choses très apprentissage, à des choses qui sont très, très éloignées. Alors, jeu vidéo, il a souvent mauvaise réputation. De moins en moins, peut-être, mais quand même souvent mauvaise réputation. J'en donnerai un exemple à la fin. Il a quand même assez mauvaise réputation. Sauf que, et une mauvaise réputation, alors, c'est pas le jeu vidéo, mais vous allez comprendre d'où j'en arrivais. Notre ministre de l'Éducation dit, à partir de la rentrée prochaine, les collégiens n'auront plus le droit au téléphone. Bon courage. Juste, je dis ça aux enseignants qui vont gérer cette question-là. C'est-à-dire que c'est tout. Mais je vais vous montrer un diagramme. C'est une étude australienne. J'ai pas trouvé l'équivalent en France. D'accord ? C'est une étude australienne et puis j'ai pas trouvé l'équivalent récent en France. On n'est pas sur les jeux vidéo, mais on est sur la pratique d'Internet dans toutes ses dimensions. Ludique, pas ludique, etc., pour regarder YouTube, pour tout ça. Mais c'est-à-dire, on est arrivé en fin 2015 en Australie à quelque chose que je pense, c'est pareil en France, je fais la même hypothèse, c'est que les gamins passent plus de temps sur Internet que devant la télé. C'est-à-dire que là, la bascule s'est faite, quoi. On passe plus de temps sur Internet que devant la télé. Est-ce une bonne chose ou pas ? Eh bien, je vais vous dire, oui, c'est une bonne chose. Et je vais par exemple prendre cette étude qui compare les heures passées devant la télé, les heures passées devant l'ordinateur et les heures passées à lire, le temps passé par les enfants. Alors, c'est des enfants de 5 à 12 ans. De 5 à 12 ans sur ces trois activités, quel impact ça a sur leur fonction cognitive ? Cette étude, alors il y en a eu plusieurs, mais cette étude teste ces questions-là. Donc, vous voyez, c'est assez simple. On prend des élèves, on regarde, on interroge leurs habitudes et on regarde ces habitudes, quelles sont les conséquences sur les fonctions cognitives. Eh bien, le premier résultat de ce papier, c'est que plus on passe d'heures devant la télé, plus les fonctions cognitives, je vais vous les décrire, mais il y a langage, il y a mémoire, il y a fonction exécutive, il y a plusieurs, elles sont en baisse. C'est-à-dire que la consommation de télévision entre 5 et 12 ans, je m'arrête là puisque c'est l'étude, ça s'arrête qu'entre 5 et 12 ans. Quel que soit on est d'accord, là je suis pas dans la. Est-ce que. Alors c'est une étude finlandaise. Donc, mais j'imagine qu'en Finlande ils ont un Arte et ils ont les ch'tis à Turku. Quoi. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'ils ont. Vous voyez, donc ils ont des problèmes de qualité comme des programmes moins de qualité. D'accord ? Ça, là c'est pas dissocié, c'est le temps passé devant la télé. D'accord ? Donc on est ça parce que souvent une critique, bah oui, mais ça dépend du programme. Je ne suis pas convaincu de ça. En tout cas, globalement, ce que dit cette recherche, c'est que plus on passe de temps devant la télé, plus on a des fonctions cognitives qui sont efficientes. En lecture, lecture qui est le Graal chez nous, c'est-à-dire que lis, en gros, c'est tant que tu lis, c'est bien. Et effectivement, c'est corrélé positivement avec les capacités attentionnelles. Les enfants qui passent le plus le temps en lecture, ce sont eux qui ont le plus de capacités attentionnelles. Et alors, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, si je prends une seconde, c'est la capacité, c'est la flexibilité mentale. Et la capacité à. La fonction exécutive, c'est la capacité à changer ses routines. D'ailleurs, j'ai un truc qui est nouveau, hop, il faut que je m'adapte. Cette capacité d'adaptation, ce sont les fonctions. Eh bien, ces deux fonctions qui sont fondamentales pour l'apprentissage sont meilleures lorsqu'on passe plus de temps en lecture. Mais le dernier, devant l'ordinateur, je dirais que c'est, d'un point de vue statistique, c'est encore mieux. C'est-à-dire. Les gamins qui passent le plus de temps devant l'ordinateur, alors pour faire, une nouvelle fois, ça ne veut rien dire, parce qu'on peut faire plein de choses, mais ont plus de capacité d'attention, meilleurs en fonction exécutive, mais sont aussi meilleurs en langage, et sont aussi meilleurs en mémoire. Donc on a ici l'idée que, on a peut-être quand même, je mets Internet d'un côté, je mets l'ordinateur, vous voyez, je suis en train de tâtonner, mais ce n'est pas le grand démon, quoi. C'est pas, je donne des cours où j'essaye de dire, les choses, plus tu es devant l'écran, plus tu vas t'abîmer les yeux, ce n'est pas vrai, moins tu vas faire attention, ce n'est pas vrai. Il y a quand même deux, trois choses qui, sur lesquelles il faut contredire la réalité. Et puis on a plein de jeux pour les gamins qui ont des troubles. On a plein de jeux pour les gamins qui ont des troubles. Et ou des, enfin, on va appeler ça des serious games, quoi. Des jeux, vous voyez, où c'est, d'accord, tu vas jouer, mais je veux t'apprendre quelque chose, quoi. Et on a plein de jeux là-dessus, sur cette chose-là, ce qui permet de motiver les gamins. Moi, je vois un avantage, c'est un terme de motivation. Et puis, ce qui permet aussi de... souvent de faire le lien entre l'école et la maison. Vous voyez, je sais pas, j'étais un parent qui a offert à mes enfants Adibou. Je ne sais pas si vous connaissez Adibou, mais j'ai offert ça en disant, ouais, c'est trop bien, parce que un, il joue, mais vous voyez, le truc, il leur apprend, puis pendant ce temps-là, je peux faire autre chose, ils sont devant Adibou, quoi. J'ai moins de scrupules que s'ils sont sur des jeux débiles. C'était mon expression, j'ai changé cette expression, d'accord. Mais en gros, là, c'est des jeux sérieux, ils vont apprendre. Donc, on en a. Donc, on a quand même, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'on a aussi une cohorte de produits qui sont là pour, à la fois qui vont faire le ludique, qui vont faire sûrement le lien école-maison, et qui peuvent à la fois, qui peuvent avoir une option très éducative. Ce n'est pas le problème, mais aussi un petit peu le problème. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un best-of, maintenant il est en libre accès même, c'est un best-of dans le jeu sérieux, tout le monde a testé son âge cérébral. Vous savez, vous commencez à jouer à ça sur la Nintendo DS. En ce moment-là, on vous dit, vous avez 73 ans d'âge cérébral. Vous jouez 3 heures et vous descendez à 44 ans. Yes! Et donc, vous êtes très fiers de vous. Les études sur ce type de jeu montrent que, ouais, on peut descendre. Plus on va le pratiquer, meilleur on va devenir dans ce jeu-là. Est-ce que ça va avoir des conséquences ailleurs? La réponse pour l'instant est non. C'est-à-dire que vous avez peut-être musclé votre cerveau pour quelques mini-jeux dans ce jeu-là, mais pas par exemple, un test qui a été fait, est-ce que les gamins qui jouent à ça vont être meilleurs en maths? La réponse est non. D'accord. Pour vous donner un exemple, Alain Liori avait fait ça, et non, il n'y a pas d'amélioration en mathématiques avec l'utilisation de ce jeu-là. Alors vous dites, c'est réglé, les jeux vidéo, ok, les jeux sérieux, mais ça, on ne sait rien. Eh bien, paradoxalement, Super Mario 64, on est d'accord, quand les créateurs de Super Mario 64, que je ne connais pas, ont créé Super Mario 64, ce n'était pas pour apprendre quoi que ce soit. Okay, c'était pour que y ait un plaisir, une expérience utilisateur, un plaisir ludique le plus fort possible. D'accord. Eh bien, une étude allemande en 2013, c'est le point de départ de ce que je vais vous raconter. Une étude allemande en 2013 a testé Super Mario Kart. Souvent, c'est des jeunes adultes. Vous voyez, moi, j'aimerais bien être sujet de ces participants de ces études-là, parce que donc on t'impose à jouer à Super Mario Kart. Bon, c'est un peu vieux maintenant, mais voilà, quoi, c'est à peu près qu'on paye pour ça, donc c'est trop bien, quoi. Donc ils ont comparé des personnes qui ont joué à Super Mario Kart et ils ont évalué l'impact de la pratique de Super Mario 64. Qu'est-ce que je dis, carte, c'est autre chose. Super Mario 64, c'est pas du tout le même jeu. Et donc de Super Mario 64. Et ben ils ont montré que des jeunes adultes, 20-25 ans, qui ont joué, alors c'était, si je me trompe pas, 30 heures à Super Mario 64, ont augmenté leur fonction exécutive, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire cette capacité à inhiber des choses pas efficaces et à avoir une flexibilité mentale, eh bien, ça a été augmenté, ça a été amélioré grâce à la pratique d'un jeu qui n'a aucune ambition à l'origine d'améliorer les fonctions exécutives. Donc, on en est là, en 2013. Et puis, alors, il y a eu plusieurs recherches. Ici, je n'ai pas voulu faire, je dis ça va être trop provocateur, mais les first personal shooters, hein, les jeux de tir à la première personne, les trucs que tous les parents disent non, par définition. Les trucs, vous imaginez, si j'arrive en classe, je dis, bah ouais, il faudrait jouer à Call of Duty en classe pendant 3 heures par semaine. Vous imaginez comment je vais être reçu avec un peu de... Eh bien, les jeux de tir à la première personne ont des vrais avantages sur les capacités attentionnelles, sur la flexibilité, la capacité d'attention visio-spatiale, etc. Mais ce qui nous rassemble ici, c'est plutôt les 10. Et ce jeu-là a été testé par Franceschini dans une équipe italienne. Donc, Rayman contre les lapins crétins. Ils ont été testés dans 2 études. C'est-à-dire qu'ils ont été répliqués, testés et répliqués. Une première fois en 2013, et c'est un peu le point de départ de nos recherches à nous, en 2013 avec des enfants dyslexiques italiens. Et ça a été, alors en 2015, il a fait tous les deux ans, il refait, mais en 2017, un gros article avec des enfants dyslexiques anglais. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Rayman, mais c'est plein de petits jeux. D'accord ? C'est plein de petits jeux. Et il sépare les petits jeux en 2 catégories. Ce qu'il appelle les jeux d'action, les mini-jeux d'action, et les mini-jeux de non-action, qu'on peut appeler aussi contrôle. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas, les Sims, vous voyez, tout le monde connaît, je pense, c'est pour ça. Ce n'est pas un jeu d'action, c'est un jeu de contrôle. D'accord ? On n'a pas... Et puis, bah, bien sûr, un jeu de tir à la première personne, c'est un jeu d'action. D'accord ? Mais là, l'intérêt, vous voyez, de Rayman, c'est que ce n'est pas violent, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, vous voyez, avant, après... Donc des enfants qui ont joué 10, qui ont joué 80 minutes, c'est pas beaucoup 80 minutes, hein, c'est rien du tout, donc il faudra voir après plus de temps, etc. Mais 80 minutes, alors des sessions, en 9 sessions, de soit au jeu à gauche c'est non-action video game, des jeux de non-action, et à droite c'est des action video game. Eh bien ce qui montre, c'est que, vous voyez, là, alors là, excusez-moi, ça peut être faussé, là c'est le temps qu'on met en moyenne pour lire un mot. Plus c'est bas, plus on lit vite, d'accord ? Donc c'est des enfants dyslexiques, ok ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Donc, à droite, nous avons les jeux d'action. Et il y a une baisse significative, c'est-à-dire que les gamins, avant de jouer et après jouer, ont augmenté leur vitesse de lecture, ont baissé leur durée de reconnaissance de mots, ont accéléré leur vitesse de lecture. Et ils renforcent ça, entre autres, aussi. Là, ici, vous voyez l'attention visio-spatiale. Jouer aux jeux d'action augmente les capacités visio-spatiales, les capacités d'attention. Sûrement, on s'améliore parce qu'on devient de plus attentif. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ de ce sur quoi je vais finir notre projet. Donc, nous, on est parti de ça. Et puis, on s'est dit, OK, c'est vraiment... Il y a plein d'avantages. Je reviens. On va pouvoir peut-être faire quelque chose sur tablette. On va pouvoir essayer de faire quelque chose de ludique. Et puis, on va faire quelque chose qui... Nous, on va essayer de contrôler ce qu'on va faire, mais on va faire un jeu. Un jeu vidéo pour les enfants 10. D'accord ? Dyspraxiques d'abord, etc. Mais vraiment, on a voulu essayer de développer cette chose-là. Et on a la chance d'être financé par un projet, donc les projets IFRAN. C'est des projets donc, qui en gros se disaient exactement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est dire il y a plein d'applis numériques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça marche ou pas. Donc on va mettre un peu d'argent sur la table pour voir si, soit vous testez des outils qui existent et vous regardez si ça marche, soit vous développez des outils maison, mais il faut nous prouver que ça marche. D'accord ? Donc, c'était l'idée de base. Et donc, c'était de mettre ensemble la recherche, le monde de l'éducation, parce que ça, c'est, il faut vraiment des partenaires éducatifs, des partenaires associatifs, et puis des développeurs, des créateurs du numérique. Et nous, on a proposé donc le projet DISAP. Projet DISAP, c'est donc le développement d'un jeu vidéo pour identifier et accompagner des élèves présentant des troubles moteurs et des troubles d'acquisition du langage écrit. Donc on a essayé de développer, on a proposé ce projet qui a été retenu, qui a été lauréat du projet IFREN, donc on est très content. Maintenant, on le regrette presque parce qu'avec le travail que ça demande, mais c'est pas grave, on est trop content quand même. Mais on a donc un projet qui est le suivant. C'est-à-dire d'aider d'abord l'école, puis après peut-être les familles, puis sûrement le monde associatif, voire les professionnels. On a des ententes avec l'école d'orthophonie, entre autres, et l'école d'ergothérapie, mais d'aider au repérage. Parce que quand je disais que c'était méconnu, bah ouais, qu'est-ce qu'un élève en classe dyspraxique quand je suis enseignant ? C'est vraiment une tâche, enfin pour tout le monde, hein, mais c'est compliqué à savoir. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la maladresse, du retard normal ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la pathologie ? Si je suis avec un petit, bah ouais, bah il est gauche, tout ça, mais c'est compliqué cette question-là. Alors plus c'est sévère, plus c'est facile, malheureusement, mais c'est un peu compliqué. Donc les aider au repérage et puis les aider à l'accompagnement. Et l'accompagnement, pour nous, c'est en classe ordinaire. Quand je vous parlais des CLIS, etc., maintenant des ULIS, nous, notre idée, c'est vraiment que ces élèves-là doivent être insérés dans une école, dans une classe ordinaire avec tous les autres élèves. On est sur un outil pour toute la classe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur un outil ludique ? Résistance du monde enseignant pour accepter un jeu vidéo dans leur classe. Résistance. Pourquoi ? Je n'ai pas précisé. Notre cœur de cible, c'est les enfants CE2, CM1, CM2. Si demain je dis un jeu vidéo pour les moyennes sections de maternelle, super, pas de souci. Pour les CM1, un jeu vidéo, ouais, mais non. Donc il y a une vraie difficulté de pouvoir imaginer. Alors c'est vrai que j'étais à une conférence la semaine dernière qui disait, bah ouais, mais il faut toujours finir le programme, on n'a toujours pas le temps, mais je vais être volontairement très provocateur. Mais ça sert à quoi encore maintenant d'apprendre à chercher un mot dans un dictionnaire ? Avec Google, ça ne sert plus à rien. Donc, hop, on enlève le temps et puis on le remplace pour autre chose. Il y a plusieurs, peut-être, petites choses qui sont... Enfin, bon, voilà, mais après, c'est un choix. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas moi, c'est pas mes propos. Donc, c'est ludique. On veut adapter le niveau automatiquement. Il faut que le jeu s'adapte automatiquement au niveau de l'élève. Ça, c'est un truc, c'est un défi technologique, puisque c'est un jeu pour toute la classe. Il faut que les bons élèves, je veux dire, c'est pas les bons élèves, les élèves sans difficulté ou avec de très bonnes performances s'amusent, s'ennuient pas, mais il ne faut pas que les gamins qui ont des difficultés soient largués. Donc le jeu doit s'adapter automatiquement. Et puis on veut collecter les données pour essayer d'avoir cette base de données, pour repérer, etc. Et puis on a trois objectifs. On va les entraîner au niveau moteur, entraîner au niveau de la planification. Je vais vous montrer des exemples visio-spatiales et puis ce qu'on va appeler plutôt le rythme. Et puis pour ça, on a monté un consortium, vous voyez, où on a des acteurs du monde de la recherche, de la réalisation, c'est la société Tralalaire, donc une société spécialisée dans le développement d'applications ludo-éducatives, le CNAM, l'École nationale du jeu vidéo, qui est aussi avec nous, et puis des associations, donc bien sûr AADIS, et aussi partenaire de ce projet-là, puisqu'il nous faut des acteurs de terrain. J'ai encore combien de temps ? 10 minutes, ok. Donc, vous imaginez, grâce à ça, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Et une question qui peut sembler complètement basique, mais à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Si je fais travailler la motricité fine, est-ce que j'améliore la motricité fine ? On ne sait pas. Est-ce que la motricité fine n'est qu'affaire de maturation biologique ? Comprenez ce que je veux dire ? Et que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça ne changera pas. Ou est-ce qu'il y a une capacité ? Alors, bien sûr, on fait le pari, nous, vous imaginez que ça va s'améliorer, hein, on n'est pas fous quand même, mais qu'on a une capacité. Et puis, on a des indices pour dire que ça va s'améliorer. Mais est-ce qu'on va s'améliorer ? Et donc, on va essayer de tester ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut entraîner la motricité fine ? Et deux, est-ce que cette amélioration va avoir un impact, vous voyez, dans tout ce que j'ai essayé d'expliquer sur comorbidité entre dyslexie, dyspraxie, etc. Est-ce que cet apprentissage va avoir un impact direct sur les apprentissages de lecture et de l'écriture ? Donc on est vraiment dans cette idée, et puis on va essayer peut-être grâce à ça à mieux comprendre les liens entre dyslexie et dyspraxie. Je reviens donc et puis je termine là-dessus. Enfin sur pour nous ce projet-là, il a des enjeux importants. Une de mes collègues en a fait l'expérience, on peut développer des super trucs. Ces super trucs, on les teste, ça marche. on les met dans la classe. Un an après, personne ne les a utilisés. Ils sont sur une étagère et ils n'ont pas été utilisés. Dire, c'est pas parce que c'est utile que c'est accepté. Et ça, nous, on a voulu, alors peut-être on va se planter, hein, mais on a voulu, nous, on sait qu'à un moment, on aura un test. Le jeu vidéo, donc un jeu vidéo sur tablette, etc., sera dans la classe et on ne demandera pas à ce qu'on l'utilise. Est-ce que ça va être utilisé par l'enseignant et est-ce que les gamins vont y aller ? Est-ce qu'il va être accepté ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais nous, on pense qu'en termes de maintien de la motivation des enfants en difficulté, ce média-jeu peut être vraiment un bon média. Il faut la maintenir, cette motivation. Il faut, surtout en primaire, si déjà le gamin, en CE2, il est dégoûté des activités scolaires, ça va être compliqué en sixième. Donc, maintenons ça. C'est quelques minutes, peut-être, par semaine. Enfin, on n'est pas en train de dire on va jouer toute la semaine. Ce serait trop cool pour certains, mais non, c'est pas du tout ça. C'est quelques minutes, des moments. Enfin, quand on est dans des pratiques en atelier, etc. On veut que ça concerne tous les élèves, je l'ai dit. Et puis, on est vraiment dans cette idée de l'inclusion scolaire, les enfants au milieu de tous les autres, c'est-à-dire pas des classes spécialisées. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais défendre. Ça, c'est pas très central. Donc, nos enjeux pour l'élève, c'est vraiment cette idée d'amélioration du langage écrit, d'éviter la baisse de motivation. Quand vous imaginez que vraiment, il y a des gamins qui sont... C'est même plus démotivé, c'est amotivé. Enfin, j'ai vécu ça en sixième, quand le passage en sixième est toujours assez compliqué, mais amotivé. Parce que, un test pour voir si un gamin est vraiment... qu'il n'y a plus aucune motivation. Vous lui demandez, en sixième, vous lui donnez une évaluation. Une évaluation importante, hein, s'il ne le fait pas, etc. Et vous laissez tomber par hasard la feuille de réponse à côté de sa copie. Il y a des gamins, ils ne vont même pas les regarder. C'est-à-dire que c'est même plus... C'est-à-dire que tricher, c'est une preuve de motivation. C'est-à-dire que c'est vraiment un signe pour nous. Yes, ils cherchent à gagner. Par n'importe quel moyen, on s'en fout de toute façon. Mais il y a des gamins, ils ne sont même plus là. Ils s'en foutent. Donc, il faut vraiment éviter là. Parce que là, que je suis enseignant, le gamin, comment je l'accroche ? Par quel bout je le prends pour le ramener vers moi ? J'ai plus de moyens, j'ai plus de prise, il s'en fout. Donc, c'est un peu dur. Donc, on voudrait éviter cette baisse de motivation. Et puis, on voudrait vraiment que ça ne soit pas un outil. Alors, ça s'appelle DISAP, notre outil, mais le jeu, ça ne se rappellera pas DISAP. Il n'y aura aucun rapport avec la dyslexie, la dyspraxie, la DIS. Je ne sais pas comment il s'appellera. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Tralalair. Mais ça sera vraiment un jeu pour un jeu pour tous. Et puis, ça ne sera pas pour toi parce que tu as des difficultés. Tiens. Non. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut s'amuser avec ça. On espère que tout le monde pourra progresser avec ça. Et puis on voudrait que les enseignants, ça les aide à trouver des points de repère. On voudrait aussi, peut-être, presque là, d'un point de vue scientifico-idéologique, montrer qu'on peut aussi, à certains moments, je ne suis pas un dingue de ça, mais à certains moments, apprendre par le jeu, même après la maternelle. Donc, on a plein d'écoles qui sont impliquées. Et puis, la liste varie régulièrement. Donc, on a des écoles qui sont impliquées dans tout le département, dans toute l'académie, maintenant même dans d'autres académies. Alors, pour vous donner des exemples de jeux, de vieilles versions, mais je n'ai pas les nouveaux jeux, vous voyez, on s'amuse à faire des... Alors, ça, c'est... Alors, quand je vous dis c'est ludique, et puis je vous montre ça. Ouais, non, il n'y aura pas plus... Non, mais attention, hein, ce n'est pas du tout game designé. Après, il y aura vraiment un jeu, il y aura plein de... En gros, ça va être... J'espère qu'on arrivera au Lapin Crétin, quoi. Je ne sais pas si y a ceux qui ont joué, c'est drôle de jouer au Lapin Crétin. Donc, mais on voudrait, voilà, vous voyez, il y a différentes activités où on essaye de faire des chemins, où on essaye... Vous voyez, Angry Bird, je ne sais pas si vous connaissez, mais Angry Bird, c'est une très bonne activité, hein. Tous les jeux de rythme, tous les jeux musicaux, Guitar Hero, super activité. Vous avez des enfants 10, Guitar Hero, Angry Bird, Lapin Crétin, un peu de Call of Duty s'ils ne sont pas trop jeunes. Des activités de motricité fine, elles ne sont pas toutes développées, on est en cours de développement, on est au début du développement, mais on va avoir plein de petits mini-jeux où on va essayer vraiment de montrer. Et puis surtout, ce qu'on cherche, donc c'est la phase où là, on a besoin de tout le terrain, c'est qu'on va, mesurer de manière la plus objective possible est-ce que la pratique de ces jeux a un impact sur les élèves 10 et est-ce que ça, il n'y a pas que ça, mais voilà, est-ce que ça peut participer à l'amélioration ou à la réduction de leurs difficultés ? D'accord ? Juste ça. Bien, je vous remercie de votre attention.
Bien, alors merci beaucoup de la qualité de votre écoute, hein, parce qu'alors ils ont été sages. On a dépassé les 50 minutes d'attention moyenne qu'on exige d'une assemblée, normalement. Et puis, les fondamentaux en ont pris un coup. Moi, je peux vous parler un peu d'expérience. Un enfant dyspraxique, dysgraphique, à qui on fait faire des lignes, alors qu'il est déjà cuit de sa journée parce qu'il a de la peine à préciser sa main, ça s'appelle de la maltraitance cognitive. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai encore beaucoup qui font des lignes. Hein. Puis alors, tout le monde leur fait faire des lignes, quand c'est pas les grands-parents, quand c'est pas la voisine, quand c'est pas... Enfin bref, tout le monde s'y met et il vaudra mieux faire des jeux, effectivement. Et surtout, alors ça, c'est, je ne sais pas s'il y aura de la recherche dans ce domaine, mais au vu des 400 enfants que nous avons aidés à l'association, pour moi, un enfant dyspraxique ne peut pas récupérer et ni se rééduquer et compenser ses difficultés de motricité s'il ne fait pas du muscle. Or, souvent, ces enfants-là passent du temps en soins, trop de soins, tuent le soin. Et comme ils sont maladroits, eh bien, ils ne pratiquent pas certaines activités et donc ils développent encore moins de muscles. Donc voilà, il faut un petit peu de tout et puis surtout de l'astuce. Donc on va vous laisser la parole. Je vais attraper le deuxième micro. T'en as un, Christine. Et puis donc vous allez nous poser toutes les questions que vous voulez, enfin surtout à Eric. Et ensuite on essaiera de vous répondre avec les moyens que nous avons. Alors, qui se lance ?
Oui, bonsoir. Effectivement, le jeu pour tous les âges, c'est génial puisqu'on sait qu'on apprend grâce à l'enthousiasme. Et on sait qu'un enfant très jeune, tous les 2-3 minutes, développe une bombe d'enthousiasme dans son cerveau. Et ne pleurez pas les personnes plus âgées, parce qu'on développe le même taux d'enthousiasme une fois tous les mois, tous les 2 mois, si on est adulte, le même taux. Et on sait effectivement que si on tombe amoureux de quelqu'un à l'étranger, avec l'enthousiasme qu'on a, on apprendra très vite la langue. Donc effectivement, le jeu, s'il était inclus dans toute la vie, on apprendrait beaucoup plus. Après, je voulais demander à notre intervenant si effectivement, lui, il avait vu ça. C'est-à-dire que pour moi, dans ma représentation d'aujourd'hui, un enfant qui est dyslexique ou dyspraxique, pour moi, c'est un enfant qui a manqué de reconnaissance ou de lui-même ou en lien avec sa famille, qui est dû l'intéressante recherche sur les familles. Mais dans le mot reconnaissance, pas dans comment on le voit aujourd'hui, dans le mot, dans la recherche de reconnaissance, c'est re et connaître, c'est avec et reconnaître à nouveau qu'on est né. Donc on a pris toute notre place. Et moi, à l'heure actuelle, ma représentation, c'est ça, c'est un enfant qui n'a pas eu de reconnaissance dans le fait de ne pas prendre toute sa place, pas seulement consciemment, mais inconsciemment. Donc, est-ce que ça, vous avez... Parce que vous cherchez plus dans les outils, mais c'est aussi... chaque personne a une histoire, et c'est l'histoire qui fait qu'il est devenu aussi comme ça, de mon point de vue, aujourd'hui.
Je suis cognitiviste. Ce que je veux dire, c'est que... Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Ce que je peux dire, c'est que j'ai quelques éléments de réponse qui vont me signaler qu'on a des signes neuronaux et cérébraux des troubles dont je parle, et ces troubles sont très précoces, c'est-à-dire au plus tôt qu'on a pu les mesurer, qu'on a eu le droit de les mesurer avec les enfants, on a des signes. Je reviens sur mon gamin de 6 mois qui avait déjà des trucs. Donc pour moi, la 10, alors peut-être ça va sortir du champ du handicap, peut-être ça va rentrer, peu importe, mais ça a des vraies conséquences handicapantes, ça c'est le premier point, c'est très fort, et que ce trouble-là, il peut être compensé, mais il restera une singularité individuelle qui fait que on ne... Le mot soigner me gênait chez les trucs, c'est parce qu'on a toujours une particularité, une singularité, et sur la dyslexie, parce que là, on a des recherches qui ont avancé. Il y a un livre de Michel Habib qui est très intéressant, dont le titre est particulièrement intéressant pour moi. Ça s'appelle « Dyslexie, un cerveau singulier ». C'est dans cet esprit-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même des fonctionnements singuliers, et on pourrait dire pour certains, des anomalies, quelques anomalies cérébrales qui vont entraîner ces troubles 10. Donc, après, les conséquences familiales, etc., elles sont multiples, mais l'origine, pour moi, est cérébrale. Et uniquement cérébrale.
Oui, moi aussi, j'ai entendu parler, et Stanislas Dehaene, qui est rentré au gouvernement, a déjà publié sur des recherches où 4 chromosomes seraient concernés. Donc, on est réellement sur une base génétique avec plusieurs générations. Alors, on peut faire de la psychogénéalogie, on peut faire plein de choses, mais il n'empêche qu'il y a des familles de gauchers, il y a des familles de 10, et la génétique est concernée et ça a été publié. Donc, on ne peut pas dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Moi, je pense que c'est plurifactoriel, mais on est 10, on l'est toute sa vie et on meurt 10. Enfin, dans notre famille, en tout cas, dans la mienne, moi, je ne suis pas concernée, mais c'est mon fils, je peux vous dire qu'on est remonté à 4 générations, qu'on les a retrouvés. Hein. Voilà. Et pourtant, il y en a qui étaient morts avant que les autres naissent. Hein. Donc, la génétique devait être concernée. Qui veut intervenir ? Oui ?
Oui, bonsoir. Donc, je suis une maman célibataire. J'élève ma fille depuis 10 ans. Et je voulais remercier le docteur Lambert, en fait, enfin le professeur, enfin, pour son intervention de ce soir et pour sa réponse de l'instant, parce que ça fait 7 ans que je me bats pour ma fille, pour qu'elle soit reconnue 10. Et malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, parce que une étiquette sur ma famille, parce que je suis famille monoparentale, et j'ai lutté contre la psychologue scolaire. Donc voilà, c'est très compliqué pour nous d'avoir été acceptés dans ce milieu scolaire et de pouvoir mettre des outils en place pour ma fille, sachant que, alors excusez-moi parce que je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer sur un micro, mais elle a souffert de harcèlement scolaire et notamment par une institutrice en CP. Et elle n'était pas la seule. Il y avait 5 enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage et du coup, ça a créé un manque de confiance dans la classe, ça a fragilisé cette classe. Et cette institutrice a été suspendue qu'un mois et demi avant l'année scolaire. Donc, étant donné que moi, je me battais parallèlement pour autre chose pour ma fille, qui avait des difficultés à s'exprimer, que moi, je comprenais complètement. Parallèlement à ça, je suis auxiliaire de puériculture. Je travaille en crèche, ça fait 20 ans. Et la bienveillance, je sais ce que c'est. Notamment sur mon enfant, que j'ai toujours conforté sur ses capacités à travers le sport. Et en aucun cas, je l'ai regardé différemment. J'ai essayé de l'élever dans tous les sens du terme. Élever, pas dresser, mais élever, la faire prendre une confiance en elle. Et elle a beaucoup pris confiance à travers différents sports, en gymnastique et tout ça. Elle s'est recréée, elle a fait énormément d'efforts vers les autres. Et je pense que maintenant, c'est aux autres de venir vers elle aussi et de l'accepter. Et si je suis venue ici ce soir, c'est parce qu'en fait, je suis un petit peu en difficulté. Et dans mes choix pour la scolarité de ma fille, parce qu'elle va rentrer en sixième l'année prochaine, et jusqu'à présent, les cours n'ont pas été vraiment adaptés à l'école. On n'a jamais voulu la faire redoubler. Donc, elle avançait tant bien que mal. Elle a eu 2 instituteurs ces 2 dernières années qui ont été bienveillants. Et grâce à ces instituteurs, cette année, elle apprend à lire. Elle sait lire. Mais la nouvelle institutrice, qui est la directrice de l'école, n'est pas encore dans cette adaptation. Elle est suivie parallèlement au CRTLA. On est en cours de diagnostic. Et je voulais féliciter l'orthophoniste qui suit ma fille. Et donc, en fait, je souhaite la laisser dans le public. Et je me suis toujours battue. Donc, je voudrais savoir un petit peu vers qui me diriger et comment aider ma fille pour continuer dans son cursus scolaire ordinaire, parce qu'elle souhaite être dans un système ordinaire. Et je la félicite, même si elle a 9,5, parce que je sais qu'elle retient. Et je sais que dans 4-5 ans, elle aura retenu ce qu'elle aura eu acquis. Voilà.
Bon, alors voilà. Merci beaucoup. On se verra après, mais on ne peut pas sur un débat suite. Comme ça. Il faut qu'on en parle après. Moi, ce que je veux dire, en revanche, et là, je vais le dire en tant qu'association, après, Eric pourra prendre la parole, mais c'est que l'école française, en général, a un problème dans 2 domaines. L'ergonomie des apprentissages. On n'a pas suffisamment travaillé dans ce domaine par rapport aux anglo-saxons. Ça, c'est ce que je vois. Puis je suis vieille, donc je peux me permettre de le dire. Et ensuite, la bienveillance, effectivement, on a longtemps pensé qu'en se faisant mal, ça marchait mieux. Et c'est pour ça qu'en jouant avec des tests, je pense là aussi, les anglo-saxons, les scandinaves, d'autres ont travaillé là-dessus. Et ce n'est pas en se faisant mal, ce qu'on a gardé, je ne sais pas, de l'époque jésuite ou je ne sais d'où, toujours est-il, c'est sûrement historique, toujours est-il qu'il faut qu'on travaille dans ces deux domaines-là. Alors le monsieur veut prendre la parole, je vais lui passer le micro, mais je te laisse faire la transition. Déjà, c'est parfait. Je repars de l'autre côté.
Un, deux. J'ai pas de transition à faire, je crois. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est invariablement. Je pense qu'on a aussi des enseignants démunis face à certaines questions par manque de formation initiale et continue. Je suis le premier à le savoir puisque j'interviens. Je suis enseignant à l'ESPE, et donc il va falloir améliorer. Mais je peux parler de toute forme de handicap. Je veux dire, sur les questions de l'autisme, sur les... enfin, je suis pas là, il n'y a pas un problème particulier. Donc, on a des enseignants qui peuvent être forcément démunis, mais il est vrai que des conceptions pédagogiques sont quand même plus bénéfiques que d'autres, générales, et tout ce qui va être basé sur la réussite, la pédagogie de la réussite, que celle liée à la pédagogie de l'échec, il faudrait du temps pour le développer, mais toujours magnifier la réussite et oublier l'échec, c'est des pédagogies qui fonctionnent beaucoup mieux, d'autant plus si elles sont explicites. En termes de vois où je vais et pourquoi j'y vais. Quoi.
Donc, ça marche.
Moi, je trouve que ça m'améliore.
Oui, ça progresse. Ouais, ça progresse.
Très, très optimiste.
Alors, le monsieur, et après, il y a quelqu'un par là. Voilà.
Alors, bonsoir. Je suis professeur de mathématiques en collège. Je rejoins ce que vous venez de dire à l'instant. Et par rapport à la remarque que faisait madame, nous, dans notre formation en tant qu'enseignant, on n'est pas du tout préparé à ce public-là et à tous les 10 qui existent. C'est-à-dire qu'on est complètement démunis et on a très peu de réponses parce que le volant de formation pour ça n'existe que très peu.
Pratiquement
mais même
pas.
L'éducation nationale en tant que telle,
deux
je crois
heures.
Qu'elle n'est pas très
deux
formée.
Heures. Vous avez 2 heures peut-être là-dessus?
Non.
Même pas.
Je ne les ai pas eues. Enfin, pas personnellement.
Le cri du cœur.
Non. Ou alors c'est le temps passé ce soir, oui, mais sinon non. Et moi je suis convaincu du jeu pour apprendre. Par contre, les jeux dont vous parliez, ça n'était que numérique. Est-ce qu'il en est de même pour le jeu un peu kinesthésique, là où c'est ce que je pratique moi davantage, et qui permettrait d'aider ce public-là avec les difficultés qu'ils ont?
Oui, alors nous, on le fait à l'association. Donc, je pense que ça peut marcher parce que ça marche très, très bien quand on le fait, nous. Hein. Tout est bon à prendre. Depuis l'époque de l'Égypte ancienne jusqu'au numérique, tout est bon à prendre. L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà.
Alors, ce qu'on appelle jeu kinesthésique, il y a plein de possibilités. Quoi. Donc, ça peut être plein de choses différentes. Je pensais que vous alliez partir vers les jeux de société. Donc, je me suis dit, tiens, non, c'est autre chose. Donc, vous avez raison et complètement raison. Mais effectivement aussi, il est démontré que la pratique sportive, et surtout la pratique cardio, etc., est déjà, de base, ça fonctionne. Donc, oui, vous avez raison. Pourquoi le jeu vidéo, nous, simplement parce que ça fait partie du quotidien, maintenant. Il y a aussi cette idée d'habitude. Quoi. Donc, mais il y a, bien entendu, les principes qu'on met en place ne sont pas dépendants du numérique. Le fait de faire des choses, vous voyez, ça pourrait... Moi, j'aimerais bien faire une manip, aller au laser game. Et faire des séances de laser game avec les gamins. Je suis sûr que ce sera efficace.
Ah, ça marche.
Comprenez ce que je veux dire ?
Le tir marche.
Mais ça coûte. Ouais. C'est plus facile de mettre en jeu un jeu que d'aller au laser game toutes les semaines, quoi. Donc c'est simplement pour ça. Donc c'est pas le numérique. Vous voyez pas quand je parle du numérique comme le numérique, comme une sorte de, avec un grand N. C'est un outil qui permet de faire de l'entraînement qui peut être fait par d'autres moyens.
De toute façon, c'est toujours plus facile de coller les enfants devant un écran, c'est sûr.
Mais c'est facile et c'est surtout efficace.
Bonsoir. Donc moi, je suis maman de 2 enfants. J'ai la grande qui survole depuis toujours dans toutes les classes, elle n'a aucune difficulté, etc. Et j'ai le petit qui, lui, depuis le CP, il y a des choses qui sont difficiles. Aujourd'hui, il est en CM1. En début de CE1, quand j'ai commencé à dire c'est bizarre, quand je lui demande de lire, il récite sa lecture et après il ouvre le livre pour commencer à lire. Là, il a du mal, en fait, hein, quand il a le livre sous les yeux, mais autrement, il se souvient très bien. On m'a dit, oui, oh, c'est que le début, il est qu'en CE1, hein, faut lui laisser le temps avant de mettre des mots sur les problèmes. Donc là, il est suivi par une orthophoniste maintenant qu'il est en CM1 depuis tout le CE2, donc ça fait plus d'un an. Il a fait des séances de psychomotricité, il a fait plein de choses. Déjà, l'orthophoniste, la première fois qu'elle l'a vu, elle me parle, parce que là, tout à l'heure, vous parliez des dyspraxiques, notamment, qui avaient des problèmes, des difficultés d'apprentissage, etc. Mon gamin, il est... moi, on m'a tout de suite parlé de précocité. Quand on m'a parlé de ça, l'orthophoniste, je l'ai regardé avec des grands yeux, j'ai dit, lui, précoce, vous ne parlez pas de la grande, vous êtes sûr? Non, parce qu'à l'école, il n'est pas super, super fort. Hein. Et effectivement, il a des difficultés orthophoniques. Il a été testé il n'y a pas longtemps par la psychologue scolaire qui, honnêtement, il n'est pas surdoué, mon gamin. C'est pas ça. Mais il y a des notions dans lesquelles il est très, très fort, largement au-dessus de la moyenne, et d'autres dans lesquelles il est moyen, et d'autres dans lesquelles elle ne les a pas testées parce qu'elle pouvait pas, elle n'avait pas les compétences pour. Et moi, j'ai des professeurs à l'école qui me disent « Oui, mais votre fils, en fait, il est très intelligent. Quand on l'interroge, il comprend tout, il sait tout. Donc, il faut le pousser. Il faut arrêter de le materner, il faut arrêter de le garder auprès de vous, il faut arrêter de nous dire qu'il ne faut pas qu'il écrive, il faut arrêter de le décourager, parce que c'est ce qu'on me reproche, hein, on me dit que je le décourage, tout simplement parce que je demande à ce qu'il écrive moins, que j'ai expliqué au maître qu'il faisait de l'orthophonie, qu'on m'a demandé d'aller doucement, de ne plus faire de lignes le soir parce qu'il n'arrivait pas à écrire, parce qu'effectivement, il apprend mieux quand il épelle les mots que quand il les écrit. Bon, c'est son truc, hein. Chacun sa façon d'apprendre. Et j'ai du mal, moi, à faire le lien, parce qu'effectivement, il compense tellement, et il est tellement fort dans certains domaines, que même l'orthophoniste me dit, je ne peux pas poser de diagnostic. Et le diagnostic, en soi, moi, ça ne m'intéresse pas qu'il ait une étiquette. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas l'étiquette qui est importante. Le problème, c'est qu'à l'école, s'il n'a pas d'étiquette, eh ben, il n'y a rien qui se met en place. Et il n'y a personne qui veut rien entendre. Et je ne sais plus par quel bout le prendre.
Vous avez raison. Vous avez raison sur... Alors, ce que vous expliquez, vous n'êtes pas seul. Peut-être que je peux...
C'est-à-dire ça ne va pas vous aider, mais vous n'êtes pas seul.
Mais, oui, non, mais au moins, c'est ce côté très hétérogène dans les compétences, on le rencontre assez fréquemment. Et on suractive les compétences où on va être fort. Et parce qu'on a des difficultés, mais parce qu'on a les moyens de les suractiver. Il y a des gamins qui n'ont pas ces moyens-là. Donc là, vous avez raison. Le côté de l'étiquette, vous avez raison. Tant qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas. Mais de toute façon, c'est un centre du langage qui doit poser un diagnostic. Donc ma proposition, c'est d'aller vers le CHU et d'aller faire un bilan langage au CHU, qui ont des compétences multiples parce qu'ils ont des professionnels multiples. Et ils pourront vous aider. Je travaille avec des orthophonistes, mais un orthophoniste, par exemple, n'a pas le droit de faire un bilan psy. Et donc, il faut un bilan psy. Enfin, je suis désolé, mais il faut certaines compétences. Donc, cette multiplicité de compétences, vous allez le retrouver dans des centres du langage. Donc, ma proposition, c'est vraiment d'aller là-bas. Le problème, c'est que il y a d'attente.
18 mois d'attente.
Donc,